Au fil des pages. Au fil des pages, une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Bonjour, nous portons tous un nom de famille et généralement nous l'avons hérité de notre père. Mais comment connaître l'origine de notre patronyme? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui grâce à mon invitée, Marie-Odile Merniac, qui est historienne et généalogiste, directrice de collection aux éditions Archives et Culture, auteure de nombreux ouvrages sur les patronymes, dont celui qui a été couronné par l'Académie des sciences morales et politiques l'an dernier, du prix Chex des Anges, un prix qui est destiné à récompenser un ouvrage d'histoire documentaire se rattachant directement à la méthode des chartistes. Cette encyclopédie, énorme, tout en couleurs, avec énormément de détails, préfacé par le démographe Jacques Dupaquier, qui est aussi membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Marie-Odile Merniac, bonjour.
Bonjour.
Je suis ravie de vous accueillir dans cette émission. Dans cette encyclopédie des noms de famille, vous nous offrez des notions sur l'étymologie des noms. Vous nous racontez des anecdotes sur les personnages importants de l'histoire qui ont porté les noms. Et surtout, vous proposez, je crois que c'est assez inédit, des cartes. J'ai compté, enfin, il y a 1300 cartes dans cette grosse encyclopédie pour localiser les noms de famille, département par département, et aussi dans les pays d'Europe, chez nos voisins. Bref, c'est toujours un plaisir et une surprise et de feuilleter votre encyclopédie. C'est un grand moment de plaisir. D'abord, un petit mot d'histoire. Depuis quand porte-t-on en France des noms de famille?
Depuis le 12e ou 13e siècle seulement.
En fait, seulement.
Il y en a eu à l'époque gallo-romaine. Les Romains avaient imposé en Gaule leur habitude d'un prénom suivi d'un nom de famille, suivi d'un nom de groupe se rattachant à un ancêtre mythique. Et puis tout cela avait été effacé à la fois par le christianisme qui avait donné à chaque baptisé un seul nom, son nom de baptême, qui effaçait les autres et qui était l'équivalent de notre prénom, et les invasions germaniques puisque les Germains ne portaient qu'un seul nom, eux aussi, individuel. L'équivalent d'un prénom, en fait, si l'on veut. Et il a fallu près de 1000 ans, l'augmentation de la population a fait qu'il y avait trop d'homonymes et qu'il a fallu d'abord donner des surnoms individuels qui se sont ajoutés. On a dit Charles le Chauve, Louis le Gros. Et ces surnoms, finalement, sont devenus progressivement héréditaires, se sont figés et se sont transmis de génération en génération à partir de cette époque-là.
Donc, depuis le XIIe siècle, on porte un nom de famille. Mais au XVIe siècle, à l'époque de François Ier, on franchit un pas de plus. On est sur un état civil. François Ier impose, je crois, l'état civil.
Voilà, l'enregistrement des baptêmes, des mariages, puis des décès. Et ça va contribuer à figer ces noms de famille dans leur forme, dans leur phonétique, évidemment pas dans leur orthographe, puisque l'enregistrement se faisait à partir de déclarations orales, la plupart du temps, auprès de populations qui ne savaient souvent ni lire ni écrire.
Donc ceux qui enregistraient, les curés, généralement, écrivaient ça comme ça leur venait dans l'oreille.
Voilà.
Chacun sa façon. Et donc, autre grand moment aussi dans l'histoire des noms, si on peut dire, la Révolution, qui, elle, je crois, impose d'avoir un livret de famille.
Alors,
c'est pas tout à fait la même chose.
Le livret de famille va arriver plus tard. La Révolution, elle va apporter en fait un état civil pour l'ensemble de la population. L'état civil de François Ier était un état civil cultuel tenu par les prêtres. Et donc, après la révocation de l'édit de Nantes, les protestants n'en avaient plus et les juifs n'y avaient pas accès non plus. La Révolution va permettre à l'ensemble de la population d'avoir un état civil, un enregistrement des noms. Et le livret de famille, lui, va arriver en 1875, se généralisant en 1877, donc après le Second Empire. C'était l'époque de nos arrière-arrière-grands-parents, simplement.
C'est pas si vieux, oui.
Et c'est seulement à ce moment-là que l'orthographe des noms de famille va se figer, parce qu'on va partir de ce document écrit pour établir les actes qui vont suivre. Donc, l'orthographe des noms de famille n'a en quelque sorte que 150 ans.
Nous parlons des noms de famille avec Marie-Odile Merniac, qui est l'auteur de l'Encyclopédie des noms de famille, parue aux éditions Archives et Culture. Et tout de suite, madame, on a envie de vous poser la question, évidemment un peu banale, mais tout de même qui nous intéresse. Quels sont les noms les plus portés en France ?
C'est Martin qui arrive en premier, avec près de 300 000 porteurs du nom. À l'autre extrémité, c'est amusant, il y a 300 000 personnes qui sont toutes seules à porter leur propre nom.
Ah oui, donc il y a 300 000 d'un côté, oui. Martin, et 300 000 individus extraordinaires, étrangers, rares, de l'autre côté.
Voilà, et Bernard arrive en second, Thomas en troisième, Petit en quatrième, Robert en cinquième, voilà.
Est-ce qu'il y a des noms qui se sont complètement éteints depuis justement l'Empire, puisque vous dites qu'il ne faut pas remonter trop tout de même?
On a des enregistrements qui sont fiables maintenant avec l'INSEE. Et si on prend simplement une période toute récente, parmi les noms qui étaient présents en 1900, soit environ 520 000 noms, il y en a 220 000 pour lesquels il n'y a plus de naissance depuis 1945. Ce qui veut dire que vous pouvez tout à fait avoir un voisin qui porte ce nom, mais qui n'a pas d'enfant et son nom va s'éteindre avec lui.
Eh oui, c'est triste. Donc, pour ceux qui veulent transmettre leur...
Voilà.
Parlons alors, avec Marie-Odile Merniac, parlons de l'origine des noms, parce qu'il y a plusieurs origines possibles dans les noms de famille. Il y a d'abord ceux qui sont issus d'un nom de baptême. Alors, quels sont ces... Donnez-nous quelques exemples. Alors, quels sont ces noms?
C'est le cas le plus fréquent, c'est-à-dire le nom de baptême était... le prénom, en quelque sorte, de l'ancêtre d'origine. On s'est appelé Jean Martin parce qu'on était Jean, fils de Martin. Et parmi les premiers noms présents en France, justement, on a précisément beaucoup de noms qui sont issus d'un nom de baptême. Martin, Bernard, on les a cités tout à l'heure, mais il y a également Albert, Antoine.
Ça, c'est pour nos académiciens. Voilà. Michel Albert, président de notre académie pour cette année, Gérald Antoine, Grammairien. Donc, tous deux ont un nom qui vient d'un prénom de baptême, en fait.
Voilà. Et sachant que ça représente à peu près la moitié des noms de famille en France.
Ah, c'est énorme.
Parce qu'il y a beaucoup de noms qu'on ne perçoit plus comme d'anciens noms de baptême. Séguin et Rocard, pour prendre des noms de politiques, sont tous les deux d'anciens noms de baptême.
Ce sont des prénoms qu'on a portés un jour.
Ce sont des prénoms d'origine germanique qui ne sont plus du tout portés aujourd'hui et donnés à des nouveau-nés, mais qui étaient à l'origine des prénoms.
Donc, on peut dire aux parents, vous avez le droit d'appeler vos enfants avec le prénom, d'abord avec le prénom qu'on veut. Aujourd'hui, je crois qu'on a le droit maintenant.
Tout à fait.
Et vous avez le droit de les appeler avec les noms de famille des hommes politiques. Donc, voilà une bonne nouvelle. Marie-Odile Merniac, il y a aussi des noms de famille qui sont issus d'une localisation. Et ils sont fréquents?
Oui, c'est la deuxième catégorie en termes de fréquence. Alors, ils correspondent ou bien à des noms d'origine, par exemple l'allemand, le breton, le normand, ou bien à des noms de localisation proche. On s'est appelé Dupont parce qu'on habitait la maison à côté Dupont.
La Grange.
Duchesne, voilà. La Grange, La Fontaine. Alors, difficile de localiser exactement d'où pouvait être originaire sa famille.
Oui, parce que La Fontaine, il y en a des milliers.
Des milliers de fontaines en France.
Voilà. Mais enfin, dans un village, peut-être à une époque où on ne bougeait pas trop, évidemment, on pouvait penser que c'était celui qui habitait près de La Fontaine. Mais ça peut remonter de façon très lointaine, comme vous l'avez démontré.
Oui, tout à fait.
Troisième catégorie, la catégorie des noms issus des métiers.
Alors, les métiers, effectivement, ont donné naissance à beaucoup de patronymes. On a boulanger, on a meunier. C'est le forgeron qui a donné naissance au plus grand nombre de noms de famille différents.
Ah oui, j'ai appris que Lefèvre, par exemple, Lefèvre, c'était...
Voilà, ça signifie le forgeron. Le Goff, en breton, signifie aussi le forgeron. Schmitt, en Alsace, signifie aussi le forgeron. Fort, Fabre, dans le sud, en Occitan, c'est aussi le forgeron.
Donc c'est forgerons de tous les pays vont bientôt s'unir.
Voilà.
Et enfin, dernière catégorie, les noms qui sont issus d'un sobriquet. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un sobriquet? Est-ce une moquerie? Forcément.
C'est vrai que les noms de famille étaient donnés par les voisins et non pas choisis par l'intéressé. Donc parfois, ils pouvaient ne pas être tout à fait sympathiques. On trouve des surnoms, je ne sais pas, le gros, bon, qui ne sont pas forcément plaisants à porter. On trouve des sobriquets qui sont de plusieurs catégories, soit qui désignent une caractéristique physique, petit, qui arrive au quatrième rang parmi les noms de famille en France, le grand, le roux. Il y a aussi les sobriquets qui correspondent à une caractéristique morale, courtois, joli, gaillard, en voilà d'autres. Parfois un lien de parenté, comme neveu.
Alors nous avons un Bruno Neveu parmi nos académiciens qui sera heureux d'apprendre que son nom de famille vient donc d'un sobriquet issu d'un lien de parenté. Et nous en avons même un autre, ancien Premier ministre.
Raymond Barre.
Alors lui, ce n'est pas un lien de parenté. Barre, ça vient d'où ?
C'était à l'origine une personne qui portait des vêtements rayés.
Et barré, qu'on avait
barré.
Ah oui, d'accord.
Et qu'on avait surnommé de cette façon-là.
Eh bien, nous avons des académiciens avec des noms patronymiques tout à fait intéressants. J'en ai encore relevé deux qui figurent dans votre encyclopédie des noms de famille, Marie-Odile Merniac, Jean-Claude Casanova, donc Casanova, et le cardinal Etchegaray. Et il se trouve que ces deux noms, qui sont d'origine différente, veulent dire la même chose.
Oui, ce sont tous les deux des noms qui traduisent une localisation, celle de la famille d'origine, celle de la maison même de cette famille, puisque Etchegaray, c'est en basque la maison rouge, donc la famille au départ habitait une maison colorée.
Toutes les maisons basques sont rouges.
Oui, difficile de savoir laquelle. Et Casanova, c'est la maison neuve. Bon, neuve, il y a 1000 ans de ça, donc qui est là aussi difficile à retrouver aujourd'hui.
C'est très intéressant. J'ai vu aussi que si nous avions des patronymes, on apprend dans votre livre qu'il y a une région très particulière. J'en parle parce que c'est une région qui me tient à cœur, celle de la Basse-Normandie, où on a plutôt des matronymes, c'est-à-dire des noms de famille qui sont issus de prénoms féminins.
Oui, on a énormément de Marie. C'est le premier nom dans le Calvados, d'ailleurs, en termes de fréquence. Marie, Marthe. Martine,
Anne, Catherine. Catherine aussi. Jeanne.
Robin, féminin de Robin.
Voilà, oui. Donc ça, c'est une particularité de la Basse-Normandie et c'est assez intéressant. Au fond, on peut dire, pour vous résumer, que les noms, c'est un peu comme les enfants. Ils ont un berceau, un berceau d'origine. Ils viennent d'une souche, d'une forme mère, vous appelez ça comme ça dans votre ouvrage, et puis à leur tour, ils donnent naissance à d'autres noms qui dérivent, et tout ça finalement finit par former une grande famille. Je ne peux donc inciter nos auditeurs qu'à lire votre ouvrage, l'Encyclopédie des noms de famille, paru aux éditions Archives et Culture, mais j'ai noté aussi qu'on pouvait, si on est intéressé par ce sujet, maintenant se rendre aux Archives nationales. Et puis, j'ai vu aussi que les Mormons pouvaient proposer une aide dans la recherche des...
Oui, alors les Mormons ont entrepris, pour des raisons religieuses, de baptiser, a posteriori, leurs ancêtres, tous leurs ancêtres, et donc, pour cela, de les retrouver tous. Et ils ont entrepris le microfilmage et l'enregistrement des actes civils du monde entier. Ce qui est, pour les chercheurs, pour ceux qui s'intéressent à la généalogie aussi, une mine d'informations.
Et puis on apprend énormément de choses dans votre livre, et notamment tous ces noms absolument qu'on croit être des noms communs et qui en vérité sont devenus des... qui étaient autrefois des noms propres. Par exemple, la poubelle, dont on sait qu'elle venait de M. Eugène Poubelle, mais le pullman qui venait aussi de M. Pullman, sandwich... Silhouette, Strass, j'ai appris ça, je ne savais pas non plus. Et encore bien d'autres qui doivent vous venir à l'esprit aussi. On apprend énormément de choses dans votre ouvrage, l'Encyclopédie des noms de famille. On y prend grand plaisir. Donc merci d'être venu en parler avec nous. Merci de vous être dérangé. J'espère qu'on aura une autre occasion de parler des noms de famille avec vous, Marie-Odile Merniac.
Merci à vous.
Au revoir.